Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous voulez faire partie de votre communauté? Devenez membre de votre station préférée en vous procurant votre carte de membre au coût de 5 $. En tant que membre, vous aurez droit de vote aux assemblées générales. La carte de membre est disponible au bureau du 92.5 Jonquière et chez Gillo Music, Alma.
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel. Pièce d'auto Sainte-Geneviève vous souhaite une bonne émission.
Pour partir la journée du bon pied, le 92.5 vous accompagne dans la bonne humeur et vous livre toute l'actualité. Avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Voici votre émission matinale.
Au lendemain d'une fin de semaine de 3 jours, au lendemain de l'action de grâce canadienne, puisque au niveau des États-Unis, c'est un petit peu plus tard, c'est au mois de novembre.
Normal.
Oui.
Parce qu'ils sont plus au sud.
Et voilà.
Les récoltes arrivent plus tard.
Et voilà, exactement. Et là, ben, nous, on est le 15 octobre 2024. Il est 6h01 et vous êtes à Réveillez-vous. Un bon début de journée pluvieux après cette fin de semaine, disons-là, quand même assez pluvieuse.
Oui, puis samedi, c'était froid.
Oui.
J'étais allé voir mon filleul qui jouait au hockey, puis j'ai fait le saut. Cassure là, de froid, puis mon frère jouait au golf.
Il joue au golf?
J'ai dit, pauvre lui.
Tabarnouche.
Il te fait faire froid, pas à peu près.
Mais samedi, moi, j'ai vu la première neige.
Ah ouais?
Étant donné que j'ai traversé le parc avec les marquis, j'ai vu le premier tapis blanc sur les côtés, là, pas directement sur la chaussée.
Mais pour ceux qui voyagent, il faut y penser à mettre ses pneus d'hiver plus
tôt. Absolument, absolument.
Puis prendre rendez-vous, parce que j'ai pris rendez-vous, moi, puis écoute, je l'ai eu le 13 novembre.
Oui, bien, c'est ça. Là, on va être rendu probablement là, dans la fin du mois de novembre. Si vous prenez rendez-vous maintenant, alors prenez pas de chance, parce que les premiers flocons commencent déjà à se pointer le nez, que ce soit dans le parc des Laurentides, que ce soit sur les Monts Valin. Tout ce qui est en terrain montagneux, on a eu les premiers flocons en fin de semaine. Écoute, je regarde la mercure ce matin, on a 5 degrés. Je ne serais pas surpris qu'il y en a encore dans le parc ce matin, là, puis du côté des Monts-Valin. D'ailleurs, on en prévoit, selon Environnement Canada, on parle de pluie mêlée de neige aujourd'hui, avec un mercure stable à 4. Ça va descendre à 2 cette nuit, donc ça pourrait être quand même neigeux.
Mais la caméra du parc est petite, là, mais
oui.
Ça semble blanc.
Ça semble blanc.
Tremble, là, ben, sur la pelouse, là, pour... dur à dire, et c'est,
ouais.
C'est pas la plus claire comme photo.
Là. Attends un petit peu, je vais aller voir sur Québec 5.1. Ouais, ça a l'air, pour moi, c'est ça, c'est de la neige qui fait encore que ça colle. Ça a l'air être de la neige sur le gazon. Donc, le parc est blanc ce matin. Une bonne distance. Mais là, à compter de demain, je regarde la température et le soleil sera de retour. Bonne nouvelle, parce qu'on l'a pas vu de la fin de semaine. Et il sera là jusqu'à au moins samedi. Et là, bien, les mercures vont partir de 8 demain et pourraient monter jusqu'à 17 samedi. Alors, au lendemain, peut-être du premier gel, parce qu'on prévoit quand même des nuits de moins 1, là, mardi, mercredi. Est-ce qu'un 17 pourrait dire l'été des Indiens,
ouais,
comme on
probablement.
Appelait? Ça pourrait ressembler à ça. Mais...
Moi, ce qui me gosse un petit peu aujourd'hui, pluie ou neige? Fait que ça se pourrait être dans certains endroits du coin de la région,
ouais.
Il y a de la neige, là, la pluie se transforme en petite neige fondante, là, évidemment, où c'est plus élevé et plus froid.
Donc, on demeure entre les deux. Puis en fin de semaine, moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est surtout samedi matin, c'est le vent.
Ouais.
Tellement venté fort.
Ben, toute la journée, parce que c'était le fait. Pourquoi il faisait froid? Parce que justement, il y avait du vent.
Et ça a causé certaines pertes de courant à certains endroits. Je pense dans le coin de Chicoutimi, ils ont manqué d'électricité pendant quelques heures. Il y a des lumières qui n'ont pas fonctionné d'ailleurs ce matin. Coin Saint-Hubert, boulevard Harvey, là, pour les gens de Jonquière, là, la lumière ne fonctionne pas. Donc, elle est sur les rouges qui clignotent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous faites votre stop. C'est comme si c'était un 4-stop.
Et d'ailleurs, je veux chialer le matin.
Oh!
Concernant la circulation, justement.
OK!
5h30, m'en viens, bien tranquille. Pas un chat sur la route, évidemment.
Non.
Fait noir, c'est le matin. Si bol, passe pas, je vais avoir un accident.
Comment ça?
Parce qu'il y a un tata qui m'a coupé en Suzuki noir, toute lumière fermée.
Ah, bravo!
Puis comme il m'a coupé, ben moi, je vois derrière. Fait qu'aucune lumière, il est noir, je vois rien. J'avance, ben, je freine, il est devant moi. Tu fais là! Tes lumières sont fermées. À 5h30, là, à cette heure-ci de l'année, là, il fait noir.
Il fait noir.
C'est la
oh,
nuit.
Oui, absolument.
T'allumes tes lumières.
Levé du soleil, là, seulement 7h05.
Ah oui.
Matin.
capotais. Ces lumières sont fermées, il est 5h30, puis il me coupe. Spécial. Il n'y a pas de chat sur la route.
Écoute, spécial, là, les lumières fermées, là, surtout en pleine nuit comme ça. Non, allumez vos lumières.
Là.
Puis pourtant, les voitures, c'est, tout se fait automatique maintenant.
Là, ah, mais c'est un vieux Suzuki noir. Lui, c'est pas automatique. Donc, ça ne va pas le faire du tout. Fait que là, la nuit, ça devient dangereux. Là.
Ben, tout à fait.
C'est déjà dangereux le jour quand il y a de la brume et des choses comme ça. On vous dit allumez-les.
Allumez vos phares, très important.
Qu'on voit vos phares de frein et vos phares arrière et qu'on ne vous rentre pas dans le derrière parce que vous n'avancez pas ou que vous nous coupez.
Oui, oui. Ah, il y a de la grosse visite ce matin et on en parle sur tous les médias. C'est le lieutenant politique du Québec du côté d'Ottawa et également ministre des Services publics et de l'approvisionnement, Jean-Yves Duclos, qui va venir faire une petite visite du côté de Port-Saguenay ce matin, en fait, au courant de la journée, et va participer à une table ronde avec des acteurs économiques de la région. C'est le cabinet ministériel qui en a confirmé hier en fin de journée. Donc, on dit que M. Duclos devrait arriver en fin d'avant-midi, d'abord pour participer à la table ronde, qui sera composée des membres de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafjord, des représentants d'institutions d'enseignement supérieur, dont l'UQAC, et également quelques entreprises. Ça aura lieu du côté de l'OTL Gouverneur, là, Chicoutimi, sur le boulevard Talbot. Une petite rencontre d'à peu près une heure. Après ça, il va aller visiter une clinique dentaire afin de parler du régime canadien des soins dentaires qui a été instauré dernièrement. Les gens de plus de 75 ans, de 65 ans, je crois.
Oui, présentement, puis les jeunes de moins de 18 ans.
Oui, c'est ça. Puis ça va continuer de s'agrandir.
Pour le reste.
Et donc, ceux qui ont des dont ce montant là qui des salaires, mais pas nécessairement tous des salaires, mais ceux qui sont sous un seuil, disons, je pense au niveau des familles, c'est en bas de 90 000, ben vous êtes éligible donc à ces soins dentaires. Donc vous avez probablement reçu une lettre ou vous êtes allé vous inscrire tout simplement. Là. C'est gratuit.
Et assurez-vous que le dentiste où vous êtes, si vous avez déjà un dentiste, est membre.
C'est
de
ça, parce que ce ne sont pas tous les dentistes qui sont membres. Exactement, c'est important de mentionner. Et avant de
prendre rendez-vous, assurez-vous que ce dentiste-là l'est.
Donc, et après cette rencontre, bien, il va se rendre du côté de Port-Saguenay. Et il y a une annonce gouvernementale qui était prévue à l'agenda, mais elle a dû être annulée pour des raisons techniques. Donc, on dit que l'annonce aurait été portée sur le logement au centre Le Phare, du côté de la baie. Monsieur Duclos devrait quitter la région aux alentours de 18h. Donc, petit passage au Port-Saguenay. Hein. On sait que ce port fait partie des prochains, on le souhaite, hein, des prochains qui devraient recevoir le plus gros des investissements. On a rempli celui de Bécancour au cours des dernières années. Maintenant, c'est au tour de la baie. Pour y avoir visité avec Éric, nous mentionnant, bien, on est considéré comme un port de plus en plus en importance, mais un port très jeune, qui a à peine une quarantaine d'années. Alors là, on dit que ça prend vraiment plusieurs décennies avant de vraiment y aller de développement. Mais on se préparait déjà après, en fait, pour finir les terrains afin de recevoir les entreprises. Donc, on prenait une longueur d'avance. Et là, bien, il y aura annonce aujourd'hui. Pas dire qu'il y aura une annonce sur une nouvelle entreprise. Je ne pense pas que juste M. Duclos qui serait présent, mais peut-être là, une subvention, quelque chose comme ça. Donc, il sera là aujourd'hui. On vous donnera tous les détails, évidemment, du côté du journal radio. On parle dans le quotidien ce matin de lait. Le lait produit par les vaches. Et une petite étude qui a été faite, c'est que depuis déjà quelques années, c'est des chercheurs universitaires qui ont chiffré la quantité de lait propre à la consommation qui ont été jetés sur une période de 10 ans, soit de 2012 à 2022. Les professeurs Thomas Elliott de l'École de technologie supérieure, Benjamin Goldstein de l'Université McGill et Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie mentionnent que plus de 6 milliards de litres de lait propre à la consommation, aurait été jeté par les producteurs au pays. Donc, on dit que c'est l'équivalent de 47 000 à 104 000 vaches laitières qui sont parquées et forcées de produire du lait que personne ne boit. C'est énorme.
Mm-hmm. Pour le ils ont des quotas, fait qu'ils peuvent pas les dépasser. Fait qu'ils les jettent.
C'est ça. Donc, pour le directeur général principal en fait, du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, le constat est clair. Il existe un réel problème de gaspillage de lait dans les fermes laitières canadiennes. Par contre, ce qu'il mentionne, c'est que l'industrie et les producteurs ne font pas preuve de la même clarté quand vient le temps de chiffrer la quantité de lait jeté. Donc, on dit cette opacité, attribuable notamment aux quotas et aux sanctions imposées aux producteurs qui ne les respectent pas, justifie, selon lui, l'exercice scientifique auquel il a participé. Donc, on dit qu'autre explication du pourquoi on n'en parle pas vraiment, c'est l'inaction de la Commission canadienne du lait à revoir le système de gestion de l'offre qui permet présentement de fixer le prix du lait canadien à un des niveaux les plus élevés au monde. Donc, le lait ici fait partie des plus chers. Donc, on dit que la commission est compromise politiquement. Ce sont des producteurs de lait ou des gens œuvrant dans le secteur qui l'amènent. Donc, l'analyse des trois chercheurs universitaires dont les résultats ont été dévoilés dans la revue spécialisée Ecological Economics estime que près de 6,8 milliards de litres de lait ont été jetés sur la période de 10 ans, de 2012 à 2022. Et la valeur de cette production laitière gaspillée est évaluée à 6,7 milliards de dollars canadiens. Donc, c'est énorme. Ce sont des pertes qui sont quand même énormes. Sauf que en millions de litres par année sur 10 ans, on voit que la tendance a baissé énormément. Le plus haut, là, ça a été 2013, où on dit qu'il y a eu 1,1 milliard de litres qui ont été jetés. Après ça, on a baissé 749 en 2015, 660, 451, 384 millions de litres en 2018. Là, on a monté un petit peu à 544 en 2019 et là, on se maintient aux alentours de 500 millions de litres. Mais on a déjà jeté 1 milliard de litres par année.
Hey.
Au début, là, aux alentours des années 2013-2014, là, donc dans cette étude. Donc, selon les calculs, ça a entraîné la production de 8,4 millions de tonnes de gaz à effet de serre sans pour autant nous servir à nourrir 4,2 millions de personnes, soit 11% de la population canadienne. On a produit des tonnes de gaz à effet de serre pour rien. Pour rien, littéralement pour rien. Donc, en raison de l'absence de données précises sur le lait jeté dans les fermes, que les producteurs ne sont pas tenus de colliger, les chercheurs ont utilisé un processus statistique par déduction. Donc, les données qui ont été prises en considération, la production totale, la quantité achetée par les transformateurs, la période de lactation des vaches et ainsi que la proportion qui a servi à l'alimentation des veaux sur les fermes. Après ça, on a fait un calcul grosso modo, puis ça a donné ces chiffres-là. Les chercheurs spécialisés là, en environnement et développement durable ont qualifié de conservateurs ou conservatrices, en fait, les conclusions de l'article scientifique. Mais évidemment, comme c'est généralement le cas là, pour les publications scientifiques reconnues, l'article signé par les trois professeurs a été révisé et commenté par d'autres chercheurs avant d'être accepté par le comité de rédaction d'Ecological Economics. Et on ne s'en cache pas, là, les prises de position passées concernant la gestion de l'offre et les quotas de production n'ont pas été bien accueillis par les producteurs laitiers, ça c'est sûr et certain. Hein, ça ne fait pas une belle image. Celui qui signe régulièrement des chroniques sur l'industrie agroalimentaire croit que le processus rigoureux de révision va enlever des munitions à ses détracteurs, d'autant plus que ce sont les deux autres auteurs qui l'ont approché et non l'inverse. Donc, M. Charlebois, là, c'était pas mon idée, je suis le troisième auteur, mais on m'a amené le contexte, puis j'ai embarqué, donc parce qu'il était critiqué. Mais il dit qu'il est le seul Canadien, les autres, c'est un Néo-Zélandais et un Américain qui ont fait les recherches. Là. Il reste quand même que les chiffres sont surprenants ce matin, disons-le.
Ben, tu sais, c'est parce que c'est... On jette du lait d'un bord.
Oui.
Puis de l'autre côté, on fait la fondation Olo. On dit que ça prend un œuf, du lait, puis je sais plus quoi, là, pour une femme enceinte. Puis là, ben, on vous demande de l'argent pour leur donner ça, pour l'acheter, pour leur donner ça, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Il me semble qu'on pourrait prendre le lait qu'on jette, puis peut-être, je ne sais pas moi, le pasteuriser, puis le donner aux pauvres.
Ben, il me semble que ce serait la moindre des choses.
Moins cher, donner à des fondations, le donner à des soupes populaires, je ne sais pas. T'as qu'à le jeter.
Exactement. Tu sais, si on s'aperçoit qu'il y a des endroits où on manque de lait, de produits laitiers, ce serait quoi? Les donner ou ben, les vendre à moindre prix, là? Parce que là, c'est tout simplement du gaspillage.
Ben oui, c'est juste le jeter pour rien, là.
6 milliards de litres de lait.
Puis ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils traient les vaches.
C'est ça.
Puis là, ben, ils ont un quota. Fait que le gars, il part avec le lait qu'il y a dans le quota. Puis le reste, ben.
On jette.
Faut qu'ils le jettent parce qu'il faut qu'ils le remplissent.
Donc, est-ce que c'est, le problème, c'est que certaines fermes ont trop de vaches? Je sais pas, tu sais. Mais tu sais, on dit, oh, j'ai un masse de vaches, ça va
bien. En même temps, c'est peut-être pas tant trop de vaches, mais des fois, ils produisent plus. Il y a des saisons qui doivent produire plus, tu sais, j'imagine.
Sans être agriculteur, je serais curieux de discuter avec Luc Boivin de ce dossier-là, parce que lui, il ne veut pas y en commande du lait,
oui,
là, pour fabriquer du fromage.
Je pense qu'il a été dans des conseillers au Canada là, pour justement là, le lait puis le fromage et tout ça. Là.
On va quand même garder ce dossier-là.
Avant d'aller aux petites vites, une bonne nouvelle.
Oui.
Climat.
Climat? Bon, t'as beau. Bonne nouvelle et climat, c'est rare, ça.
Ceux qui sont pro au changement climatique, réchauffement climatique, le diront pas.
Oui.
Mais... au Sahara, il y a eu plus de pluie que jamais.
Hein? Dans le désert?
Que le Sahara est trempé. Il y a des lacs qui étaient disparus depuis 50 ans qui sont réapparus.
Ben voyons donc, toi.
Puis pas des petits lacs, là, des lacs qu'on voit sur des satellites. Il y a des images qui ont été mises sur, je pense, sur X. Écoute, on voit de l'eau dans le désert, littéralement.
Ben voyons donc.
On parle de 9,4 millions de kilomètres carrés qui ont été engloutis d'eau, de 200 millimètres d'eau. Eux qui en reçoivent environ 10 mm par année. Quand ça s'assèche d'un côté, d'un autre côté, ça devient plus...
Humide.
Quand il fait plus chaud d'un autre côté, c'est plus froid.
Donc là, ça, il est en train d'avoir un
virage. C'est des changements.
C'est ça, c'est climatique. Un changement climatique.
Il y a 30 000 ans, quand on est apparu, l'homme,
ou
50 000 ans à peu près, c'était en Afrique, en plein cœur du désert. C'était un oasis. Ben, c'était pas un oasis. C'était la grande prairie, c'était les arbres, c'était l'eau.
Les champs et tout,
Depuis, ça c'est devenu un désert.
Ça s'est asséché.
Ça change.
Puis là, on dirait que c'est en train de tourner tranquillement, pas vite. Ou là, il a tombé de la pluie. Écoute, sur combien de territoires, 8?
9,4 millions de kilomètres carrés.
C'est la grandeur du Canada, presque.
Qui
est inondé d'eau, alors que normalement, c'est du sable. Hey, parce que je regarde, là, allez sur, moi, ce que j'adore aller faire, c'est aller sur Google Maps, regarder, puis reculer là, la map, là, la carte du monde, là. Regardez le Canada, puis le haut de l'Afrique, là. Colin, c'est à peu près la même grosseur. Mais écoute, il y en a du sable, là. Quand on regarde, quand l'image satellite montre que c'est pratiquement blanc ou brun, là, c'est parce qu'il y a énormément de sable, il n'y a pas grande végétation dans ce coin-là. Mais là, il y aurait eu de la pluie, donc beaucoup de pluie, 200 mm au cours de la dernière année.
En Afghanistan, ils n'ont jamais eu autant d'inondations.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a eu
de
la neige l'année passée. Le climat change.
Le climat change. Alors, ce n'est pas vraiment des réchauffements, mais c'est des changements climatiques. Ce qu'on mentionne pour certains, on dit, c'est que l'homme accélère ces changements. Vrai, faux, je ne sais pas. On va aller aux petites vites avec Jean-Claude Gélina.
Pour célébrer le premier anniversaire de A&W Arvida, les restaurants A&W de Chicoutimi et Jonquière s'unissent pour proposer aux clients un petit café à 1$ et un délicieux café latté à 2$ tout au long du mois d'octobre. Nous remercions chaleureusement notre clientèle pour sa précieuse fidélité.
Vous aimeriez vous débarrasser de vos maux de dos, mais vous êtes découragé après plusieurs tentatives? Si vous souffrez toujours de douleurs au dos, au cou ou d'engourdissement malgré les bons soins reçus, peut-être que vous souffrez d'arthrose vertébrale ou encore de blessures à vos disques. Et si c'est votre cas, les docteurs de la clinique Neurodisque peuvent vous aider à mieux comprendre ainsi qu'à mieux soigner votre condition. Prenez rendez-vous maintenant au 418-543-1113 pour un examen complet de votre condition actuelle avec les docteurs de la clinique Neurodisque et donnez-vous la chance de recommencer à vivre pleinement.
C'est rendu une tradition depuis plus de 5 ans. À tous les dimanches, 16h, sur les ondes du 92.5, vous participez au bingo, au super bingo. À chaque semaine, 4000$ à gagner avec nos 4 jeux. Le 2 lignes pour 500$, le H aussi pour 500$, la carte pleine pour 2000$ et la carte pleine consolation pour 1000$. Et en plus, avec l'inflation, les cartes de bingo du 92.5 n'ont pas augmenté. Toujours à 5$ dans nos nombreux dépositaires partout dans la région. Achetez-les rapidement et on se donne rendez-vous à tous les dimanches, 16h, pour le bingo du 92.5. 4000$ en prix. Bonne chance!
Le sport, presque une religion, plus qu'une passion. Place au sport avec Dominique Bolduc.
Il y a eu quand même beaucoup de sport au cours du week-end, mais également hier, en ce lundi de la de l'action de grâce. Et les Canadiens qui étaient en action, donc en soirée, recevaient la visite des Penguins de Pittsburgh. Et les vétérans, quand même, Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Christopher Letang et Larcelaire. Disons-le, mm-hmm. parce que Larcelaire a passé par Montréal, mais fait partie des joueurs qui ont plus de 1000 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Et ce sont les Penguins de Pittsburgh qui en ont le plus. Je pense qu'ils ont 5 joueurs, je pense, avec Eric Carlson, qui ont plus de 1000 matchs. Ben, hier, l'expérience a eu le dessus sur la jeunesse, alors que le Canadien a manqué de constance, disons-le. Et finalement, ben, les Penguins l'ont emporté par le pointage de 6-3. Départ laborieux, ils ont rebondi avec 3 buts sans riposte pour prendre les devants 3-2. Kevin Hayes qui rompu l'égalité 3-3, de 3-3 avec la fin, en fait, en fin de deuxième période. Et bien, par la suite, ben là, ça a déboulé pour les Pingouins qui l'ont emporté finalement 6-3. Larcelaire a contribué au triomphe des Pingouins avec ses 2 premiers buts de la saison. Samuel Montembeau a bloqué 26 rondelles. Ça n'a pas été le meilleur match de Montembeau, mais ça n'a pas été le meilleur match du Canadien, point. Kaden Gooley, Juraj Slafkovský et Emil Heinemann, avec son 2e en 2 matchs, ont trompé la vigilance de Tristan Jarry, qui lui a reçu 27 lancés. Nick Suzuki et Mike Matheson ont récolté chacun 2 passes. Canadien qui sera en congé d'entraînement aujourd'hui et va se préparer pour son prochain match qui aura lieu jeudi contre les Kings de Los Angeles. Donc le Canadien se retrouve avec un dossier de 2 victoires et 2 défaites. Grand retour à Denver alors que l'ancien gardien et entraîneur de l'Avalanche, Patrick Roy, effectue un retour depuis qu'il avait quitté son poste il y a un peu plus de 8 ans. Maintenant, derrière le banc des Islanders de New York, Brock Nelson qui a profité des largesses défensives de l'Avalanche pour inscrire un doublé à 2 minutes 49 d'intervalle au 2e 20 pour permettre aux Islanders de l'emporter 6-2. Donc, Roy qui goûte au succès de son retour à Denver après avoir quitté les New Yorkais qui pouvaient compter sur leur gardien numéro 1, Ilya Sorokin, pour la première fois de la campagne, n'avaient pas connu la victoire à leurs 2 premiers matchs du calendrier. Et l'Avalanche, qui est passablement amochée là, par les blessés, eux perdent un 3e match en 3. Donc, depuis le début de la saison, ils sont toujours à la recherche d'une première victoire. Et c'est pas seulement 3 défaites, mais le fait qu'ils ont accordé 20 buts lors de ces 3 premiers matchs. Donc, la défensive en arrache énormément. Carl Palmieri et Anderson, le capitaine, ont marqué dans cette rencontre-là, dans la défaite. Kyle McCard a connu un des rares jeux mous, ce qui a permis à l'Avalanche, à Islanders, d'en profiter et de donner la défaite à l'Avalanche. Anthony Duclair qui a enfilé son 2e en 3 parties avec son nouveau club. Mathieu Barzal, lui, a complété le pointage dans une cage déserte. Tout un match offensif pour ceux qui pitonnaient dans l'après-midi en match des Alouettes. Puis du côté d'RDS2, il y avait la rencontre entre les Sénateurs d'Ottawa et les Kings de Los Angeles. Et ça a été un match littéralement de fou qui a été remporté par les Sénateurs d'Ottawa en prolongation 8-7. 15 buts ont été marqués et ben, ça s'est promené là, d'un côté comme de l'autre depuis, en fait, dès le début de la rencontre. Puis donc, ça a donné vraiment tout un match. D'abord, ben, ce sont les Kings qui ont ouvert la marque en première période grâce au premier de Kevin Fiala. Les Kings ont pris les devants 2-0 quelques temps plus tard, moins d'une minute plus tard. Et en milieu d'engagement, Jake Sanderson a créé l'égalité en avantage numérique. Les Kings ont repris les devants par 2 buts grâce encore une fois à l'avantage numérique en début de deuxième période. Ottawa a réduit l'écart à 3-2. On a repris les devants 4-2 du côté de Los Angeles. Et là, après ça, mais Ottawa a marqué 2 buts pour créer l'égalité, 4-4. Mais avant la fin de l'engagement, Fiala a marqué son 2e, là aussi un avantage numérique, 5-4. Mais Ottawa a créé l'égalité une minute plus tard, 5-5. En 3e période, La Ferrière a marqué son 2e but du match. Ottawa a créé l'égalité, a même pris les devants grâce à 2 buts en avantage numérique. Et avec 5 minutes à jouer, Tanner Janot a forcé la prolongation avec le 7e but de l'équipe. Et finalement, c'est Josh Norris, dès la 56e seconde de la prolongation, qui a donné la victoire aux Sénateurs par le pointage de 8-7.
Donc, les poules.
c'est parfait pour les poules parce que, écoute, je te dirais que tous les joueurs pratiquement ont participé au pointage dans cette rencontre. Puis il y a quelques joueurs qui ont réussi là, un peu plus de points. Là. T'sais, je te dirais, du côté des Kings, ben, ceux qui ont indiqué Kopitar, 3 points. Laferrière, 2 points. Fiala, 2 buts. Adrian Kempe, 2 buts. Clark, le défenseur, a récolté également 3 mentions d'aide. Chez les Sénateurs, ben là, Stutzla a 3 points, Batterson a 3 points, Kachuk a 3 points, Norris également 3 points. En défensive, Chabot et Sanderson ont récolté 2 points. Alors, littéralement, là, c'est très bon pour les poules. Dans les autres matchs présentés hier, bien, la formation de l'Utah a subi sa première défaite de leur histoire après avoir remporté les 3 premiers matchs depuis le déménagement de l'Arizona. Bien, hier, ils ont été blanchis 3-0 face aux Devils du New Jersey. C'est l'ancien gardien du Canadien, Jake Allen, qui a obtenu son jeu blanc et son premier dans l'uniforme des Devils depuis qu'il a été transigé la saison dernière. Il a repoussé les 20 lancers envoyés en sa direction. Et il s'agissait de son premier jeu blanc depuis le 14 février 2023. Et son 25e en carrière. Il est également devenu le premier gardien de l'histoire de la Ligue nationale de hockey à remporter au moins un match contre 33 franchises différentes. Parce que il a gagné contre Montréal, étant donné qu'il était avec les Blues de Saint-Louis. Il a battu les... Et là, bien, il a battu l'Arizona. Et là, il est le premier à battre l'Utah. Donc, il devient le premier gardien à obtenir une victoire contre 33 équipes différentes. Nico Hischier et Seamus Casey ont ramassé chacun un but et une passe dans cette victoire. Sam Reinhart lui a marqué en avantage numérique ainsi qu'en désavantage numérique pour donner une victoire de 4-3 aux Panthers de Floride sur les Bruins de Boston. Et Chris Ryder qui a marqué le but qui a donné les devants pour de bons Rangers de New York en deuxième période qui l'emporte 4-1 sur les Red Wings de Détroit. Baseball, série de championnat dans l'américaine, ça débutait hier et pour les Yankees de New York, bien, on a profité de Juan Soto qui a frappé la longue balle en troisième manche, de Carlos Rodon qui signe sa première victoire en série, gain des Yankees 5-2 sur les Guardians de Cleveland, les Yankees qui ont inscrit 3 points en troisième pour remporter ce premier match série 4-7. Les Guardians qui deviennent la deuxième équipe de l'histoire du baseball majeur à commettre 2 mauvais lancers qui ont permis à l'adversaire de marquer au cours d'une seule manche et ont égalé le record avec 5 lors d'une année en série. Alors les mauvais lancers qui ont fait mal. Donc, pour les Guardians qui s'inclinent lors du premier match. Et dans l'autre série, après une victoire écrasante des Dodgers lors du premier duel, eh bien, les Mets ont répliqué hier avec un gain de 7-3 pour créer l'égalité 1-1 dans cette série 4-7. Francisco Lindor et Mark Vientos ont frappé chacun un circuit. Lindor qui a poursuivi sa saison de rêve avec une longue balle en première manche contre Ryan Brassier. Les Mets, en fait, ont pris les devants 6-0, entre autres sur un grand chelem de Vientos. Et là, bien, les Dodgers sont revenus derrière pour réduire l'écart à 6-3, mais les Mets ont ajouté un point en fin de rencontre pour confirmer leur première victoire dans cette série. Et football, ben, il y avait la rencontre du lundi soir hier, les Bills de Buffalo qui ont battu les Jets de New York par la marque de 23-20 pour s'emparer du premier rang dans l'Est de l'Américaine. Josh Allen qui a complété 19 de ses 25 tentatives pour 215 verges de gain et 2 touchés. Il a également ajouté un majeur par la voie terrestre. La recrue Ray Davis avait la lourde tâche de remplacer James Cook en raison, en raison d'une blessure. Puis il a très bien paru, devenu le deuxième porteur de ballon cette saison, amassé au moins 50 verges de course et de passe en première demi. A terminé le match avec 152 verges au total. Et les Alouettes étaient de retour à domicile. Et avec une météo froide, mouilleuse, ça n'a pas été impeccable sur le terrain non plus, mais les Alouettes ont combattu tout ça pour l'emporter, compléter le balayage face aux Rouges et Noirs d'Ottawa, une victoire de 19-12. Eux qui étaient déjà assurés de la finale de l'Est, les Alouettes ont eu le luxe d'accorder ce départ donc au quart arrière Davis Alexander, qui n'avait pas joué depuis le 17 août dernier. Et là, bien, 4 départs. 4 victoires pour le quart arrière. On a reposé le quart arrière partant, donc en amenant Davis Alexander. Et pour les Alouettes, c'est une 12e victoire cette saison. Ils ont 3 défaites et 1 match nul. Il ne reste que 2 rencontres à jouer à la saison. Et les Alouettes sont déjà assurés de participer à la finale de l'Est et de l'accueillir du côté du Stade Molson. Alors voilà, ça fait le tour pour les sports de mon côté. On aura Michel Tifo à compter de 7h15. Le mot de Max Bradette également à 8h40. Éric n'est pas là ce matin.
Ah, il n'est pas là?
C'est ça exactement.
Je pensais que c'était lui qui rentrait.
Non, en fait, c'est pas lui. En cas, s'il y a quelqu'un, je me demande bien c'est qui. Éric, ce matin, il y avait un rendez-vous, je pense, du côté de Québec.
Oui, c'est vrai, ça.
Avec sa douce.
Peut-être au retour.
Il sera probablement là au retour. Alors, Éric, je ne sais pas s'il est déjà en chemin, mais on lui souhaite bonne route et prudence dans la réserve faunique des Laurentides. Donc, pas de possibilité d'avoir... On a de la neige ce matin là, dans le parc, là, disons-le. Puis je serais curieux, pour ceux qui sont peut-être dans le coin de Falardeau, en montant vers les Monts-Valin, ou ceux qui nous écoutent directement là, dans les montagnes, s'il y a de la neige, là, peut-être nous avertir au 88-412-92-50. Donc, un peu plus tard dans l'émission ce matin, on aura Catherine Morissette qui sera avec nous pour sa petite entrevue, sa chronique politique municipale à compter de 7h30. Je l'ai vu qu'elle a partagé sur sa page hier, elle dit « manquez pas ça ».
Ah,
j'ai bien hâte de voir de quoi elle va parler, mais ce sera somme toute assez intéressant. Pas de nouvelles, 7h45, de quoi on parle?
Je suis ambivalent entre deux, fait que je vais attendre un petit peu.
OK, surprise. D'accord. Surprise. Et bien évidemment, on aura la chance de discuter. Vous aurez la chance de discuter avec nous, si vous voulez, jusqu'à 9h. On s'en va à la pause dans quelques instants. Détails météo et les éphémérides pour un 15 octobre. Vous êtes à Réveillez-vous. Fait noir. Il pleut. Mais on est là jusqu'à 9h.
Je sais pas si tu vas me crier, mais on dit entre les branches que le plus grand inventaire de pièces de voiture se trouve chez Pièces d'Auto-Choc. Pièces d'Auto-Choc vous le confirme. Peu importe votre besoin, on a la pièce qu'il vous faut. Roues, mag, alternateur, transmission, phare, batterie, carrosserie. On a tout ça et même plus encore dans le neuf et l'usagé. Gardez votre voiture longtemps grâce à Pièces d'Auto-Choc, chemin de l'église, La Terrière, 545-0505.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mon Denturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
Bonjour à tous, ici Alain Plante. Le rendez-vous incontournable des amateurs de bonne musique, des travailleurs de nuit et des insomniaques, c'est Cargo Nuit 100% live, du mardi au vendredi de minuit à 6h. Du mardi au jeudi, toujours le meilleur de la pop et du rock, avec 45 minutes de trame musicale au début de chaque heure. Le vendredi, place à la Métrothèque, avec les plus gros succès des années 70 à 2000. Et de 5h à 6h, c'est Cargo au réveil, avec la meilleure musique du country, agrémentée de la météo, des sports et de la une des journaux et des sites web. Et vos demandes spéciales sont toujours les détenues au 88 82 92 50. Soyez au rendez-vous de Cargo Nuit 100% live, du mardi au vendredi dès minuit, seulement au 92 5, ma radio d'ici.
La météo, une présentation de Kia Harold Auto, 693-8050.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
92.5.
Météo!
Pluie ou neige, tout dépendant des endroits, des rafales à 50 km/h aujourd'hui, température de plus 4. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la neige à certains endroits. Puis ça va être comme ça ce soir et cette nuit aussi, avec un minimum de plus 2. Alternance soleil et nuages pour demain, dégagement en après-midi, maximum de 8. Soleil jeudi, maximum de 11. Vendredi, soleil, maximum de 16. Et samedi, soleil, maximum de 17. On a 5 au Saguenay, c'est 4 au lac.
92.5 Ma radio d'ici. Par une journée comme aujourd'hui, un événement, une personnalité, voici les éphémérides du jour.
Les éphémérides de ce matin pour un 15 octobre, déjà rendu à la moitié du mois, ça va vite, on venait à peine de le commencer et on dirait que lorsqu'il y a un petit congé de 3 jours, pouf, tout s'allonge puis on se retrouve déjà à la moitié du mois. Donc le jour de l'amaryllis aujourd'hui, qui est une sorte de plante. Donc, c'est un nom vernaculaire féminin qui est donné à différentes plantes bulbeuses à fleurs de la famille des Amaryllidacées. Voilà.
Il y a une chanson québécoise qui parle de ça.
Amaryllis?
Oui, la chanson du bassiste de Caïn avant.
Oui, ma Marie.
Comment il s'appelle, lui? Éric? C'est Éric?
Oui. Ah, t'as peu.
Il y a eu un gros succès dans les années 90.
Oui, ma Marilyn.
Ma Marilyn. Vous me faites penser à ça. Ma Marilys.
Éric. On doit avoir ça, ma Marilyn. Éric oui. Maheu.
Maheu. C'est ça, ben oui. Il est croisé en plus.
Puis moi, j'avais été surpris parce que j'avais déjà entendu cette chanson-là, puis je l'aimais, mais plus jeune, j'avais aucune espèce d'idée qui chantait ça. Puis à un moment donné, quand ils sont devenus bien populaires, ils sont venus à jouer en musique. Puis là, il dit, bon, on va laisser notre bassiste faire une chanson qu'il avait faite. Je... Ah, c'est lui. Ben, coudonc.
<Et oui. rire>
Mais ça avait été tout un succès, ma Marilyn d'Éric.
C'est une bonne chanson.
Oui, tout à fait. Quand même assez rock, tu sais. Oui. Assez rock. Ça avait été très bon. Bonne fête aujourd'hui aux Thérèse. Tiens, Thérèse Davila, qui a été réformatrice du Carmel, docteur de l'Église, qui a vécu au 16e siècle. Donc, on dit Thérèse Davila, religion Thérèse de Jésus, donc religieuse carmélite espagnole, et on dit que l'influence de ses écrits, témoignage de son expérience mythique, en a fait une reconnue encore une fois aujourd'hui, donc qui a vécu dans les années 1500. La Une Journal en 1996, on était un mardi également et on revenait donc de la fin de semaine de l'Action de grâce. Et on revenait sur la catastrophe de juillet 96, le déluge. Ah, ben et en une du journal, on parlait de catastrophe de juillet. Michel Barrette n'en revient pas, alors qu'on le voyait photographié devant la petite Maison-Blanche et avec une patte sur l'œil.
Oui, c'est vrai, il y avait eu un accident durant un spectacle.
Durant un spectacle.
Un spot qui avait éclaté.
Éclaté, puis il avait reçu un morceau de verre dans un œil. Et ça lui avait brisé la rétine. Puis heureusement, il avait reçu une greffe.
Oui, parce que ça avait pété l'œil. Il dit que j'avais tout ça dans la main.
Ça coulait. Puis ça avait été quand même assez spécial. Et c'était survenu quelques temps après le déluge. Chicoutimi, hommage à tous les bénévoles. Alors évidemment, on revenait sur la catastrophe du déluge. Hôpital d'Alma, la bâtisse va changer de visage. Et Villeneuve pense déjà à la saison prochaine. Jacques Villeneuve qui terminait son championnat avec sa première année avec Williams, où il a terminé au deuxième rang, et l'année plus suivante, il avait été sacré champion du monde.
Du côté des naissances, 1608, Evangelista Torricelli, physicien et mathématicien italien, qui a calculé la pression atmosphérique. On s'en sert beaucoup pour savoir si c'est faire ou pas beau.
Absolument.
1701, Marguerite Dioville, religieuse québécoise, fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal, première canadienne à être canonisée. 1840, Honoré Mercier, homme politique québécois, 9e premier ministre du Québec de 1887 à 1891, député du Canada avant, premier à considérer l'indépendance du Québec.
Ah!
Son gendre a été premier ministre du Québec, Lomer Gouin.
Ah oui, c'est son gendre?
Oui, son arrière-arrière-petit-fils. Vous le connaissez?
C'est qui?
Thomas Mulcair.
Ah!
Ancien chef du NPD.
Tabarnouche!
Il y a le pont Honoré Mercier, la ville de Mercier, des écoles à son nom, des rues et un monument au Parlement, en plus d'un vitrail dans une église en France, qui commémore sa visite en 1891 sur sa terre natale.
Hein? Tabarnouche!
Un homme important.
Un homme assez important, oui.
On l'a assez honoré. Ils nous ont remercié. Ouais.
Et il a un des trois ponts principaux, des principales ponts qui...
Il n'y a pas d'une station de métro?
Oui, absolument, Honoré Mercier, tout à fait.
1844, Frédéric Nietzsche, philosophe allemand. 1935, William O'Ree, hockeyeur professionnel canadien. Premier noir à jouer dans la LNH.
Absolument.
Par contre, il n'a pas joué longtemps.
Non.
Deux matchs avec Boston en 1957, puis 43 en 1960 et 61.
Mais il est toujours reconnu comme étant le premier à avoir joué dans la Ligue nationale.
Ouais. 1942, je sais pourquoi il a changé son nom, parce que c'est un Français.
Ah.
Mais il y avait un nom. Avec du power.
Oui.
Il s'appelait Jacques Puissant.
Mais c'est qui Jacques Puissant?
Éric Chardin.
Hein?
C'est, il me semble que c'est plus doux, Chardin.
Chardin.
J'avoue que Puissant et c'était quoi Chardin, leur duo? C'est Stone et Chardin. Stone et Chardin. Puissant, ça aurait fait bizarre.
Ouais, un peu spécial. Mais Éric Chardin, son vrai nom, c'est Jacques Puissant.
Chante l'Aventura, Made in Normandie, Est-ce une fille ou un garçon, entre autres. 1943, Carole Penelope Penny Mascarelli, mieux connue sous le nom de Penny Marshall. Ça vous dit pas grand-chose peut-être, mais c'est elle qui faisait Laverne dans la série Laverne et Shirley.
OK.
Ça vous dit pas grand-chose, mais tu sais, dans le générique, il y a un générique qui est repris dans Wayne's World 2. Quand ça va à Chicago, là, ils sont dans la rue, puis ils marchent, puis ils se retrouvent dans une usine de bouteilles.
Ouais.
Ça, c'est le même générique que Laverne et Shirley qu'ils imitent.
OK.
1947, Jean-René Ouellet, acteur québécois. Je savais pas son nom. Sa face, tout de suite, j'ai fait,
oui.
Mais il s'appelle Jean-René Ouellet, je savais pas. Elle fait les belles histoires des pays d'en haut, le temps d'une paix, Ouattatata au Cormoran, lancé contre la nouvelle génération, fait le maire de Québec.
Oui.
Les invasions barbares et l'âge des ténèbres, entre autres.
Mais il faisait surtout Jean-Paul Bello.
Non.
Non, c'était Gilbert Scott, ça. Mais il jouait...
Ouais, une autre affaire.
Non, il jouait dans les machos.
Ah, peut-être.
Oui, il jouait dans les machos, puis c'était un peu le charmeur de ces dames. Ah. Puis, ouais, absolument. Vous verrez le visage là, de Jean-René Ouellet, vous serez capable
vous
de le reconnaître assez facile. Oh, oui.
1948, Christopher John Davidson, mieux connu sous le nom de Chris DeBerg.
Ah,
chanteur
ben oui.
Irlandais, il y a 75 ans. Sa femme est Miss Monde 2003. Donc, elle a 40 ans.
Oui.
35 ans de différence.
Pas pire.
Presque le double.
Ouais.
Aucun numéro 1. Lady in Red a été numéro 3. Et en français, Quand je pense à toi, qu'il a écrit pour remercier les Québécois.
Mais il avait fait tout un retour, justement, quoi, début des années 2000, avec ses succès français, Le cœur d'une femme, Quand je pense à toi. Puis c'était bon.
Ouais.
C'était vraiment bon.
Mais ça n'a pas marché parce que c'était juste pour le Québec, évidemment. Ouais. 1953, Toriano Adaril Jackson. Il est connu sous le nom de Tito Jackson, guitariste des Jackson 5, qui ont eu 4 numéros 1, mais en ligne.
Oui.
I Want You Back, ABC, The Love You Save, et I'll Be There. Mama's Pearl, Never Can Say Goodbye, oui. Et Dancing Machine numéro 2, parce que eux qui ont fait Never Can Say Goodbye pour la première fois.
Ah oui, c'était eux autres en premier. Mm-hmm.
Okay. Et State of Shock avec Mick Jagger a été numéro 3.
Ah, je connais pas.
Moi non plus. 1982, Charline Labonté, gardienne de but québécoise, qui a eu 3 médailles d'or aux Olympiques, 2 médailles d'or et 6 d'argent au championnat du monde. Du côté des décès, 1917, Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Gertrudazel, espionne des Pays-Bas, fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Mmh. 1934, Raymond Poincaré, homme politique, avocat, journaliste français, président de la République française 1913 à 1920, donc durant la Première Guerre mondiale. 1945, Pierre Laval, avocat français, premier ministre du régime de Vichy de 1942 à 1944, qui a tenté de se suicider le jour de son exécution en avalant une capsule de cyanure, ce que les nazis faisaient.
Oui.
Il en avait donné une, mais les médecins vont lui faire 2 piqûres, puis lui faire un lavage de soma pour qu'il meure, pour pouvoir le fusiller.
Ben voyons donc.
Puis dans le cours de la prison, il y a un jeune garçon qui s'amusait,
okay,
de 9 ans, qui a entendu ces coups de feu-là. Il s'appelait Alain Delon.
Non! Il était dans le cours de la prison?
Ouais, il jouait probablement que son père était gardien de prison, je sais pas, mais il jouait dans le cours de prison, puis il a entendu les feux, les coups de feu qui ont tué Pierre Laval. Il dit, ça m'a marqué. Il dit, j'ai rien vu, mais il dit, le son, je me souviens.
Puis Alain Delon est décédé dernièrement, pas si longtemps, on en parlait justement.
1946, un an plus tard, Hermann Göring, dignitaire nazi qui, lui, s'est empoisonné pour éviter la pendaison.
Oui.
1964, Cole Porter, compositeur américain de beaucoup de chansons, mais surtout son plus grand succès, I've Got You Under My Skin.
Oui.
1976, Carlo Gambino, gangster américain, parrain de la famille du même nom, décédé d'une crise cardiaque, donc jamais arrêté. Ni tué par d'autres. Il était tué, il est mort de cause naturelle.
Son durant surnom, ses fonctions, disons.
Oui, son surnom, The Godfather. Non, il n'était pas en fonction. Il avait donné la place à son un de ses fils avant.
D'accord.
Mais The Godfather, c'était son surnom, mais le film ne raconte pas sa vie.
Ah, OK, donc le parrain n'est pas
non, ce n'est pas
lui.
Le parrain.
D'accord.
1985, Frank Chouffi, avocat québécois, avocat des grands criminels du Québec, dont Richard Blass, Dave Hilton, Monica Proietti.
Monica Lamitra.
Ouais, je savais pas si c'était son nom de famille. Et c'est lui qui a négocié pour le retour du cœur du frère André.
Ah, ouais.
Avec les ravisseurs.
Donc, Frank Chouffi, si je me fie. Peut-être. Non, c'est peut-être un peu différent, mais dans le négociateur, il y avait un grand avocat comme ça.
C'était lui.
C'était Moody. Ouais, on l'appelait Moody.
Il était dessus flamboyant, puis criait, puis il parlait fort.
Ben, flamboyant, oui et non, mais écoute, il était dans toutes les causes.
Puis lui, il rentrait, puis hey, tu fais ça, puis tu. Il était quelque chose.
Puis on dit, ben, défendu Richard Blass, ben oui, c'était le...
D'ailleurs,
le
assassiné de 3 balles dans la tête et une au thorax dans son bureau.
C'est exactement lui qu'on parlait.
OK. 2018, Paul Allen, informaticien et homme d'affaires américain, cofondateur de Microsoft, qui est décédé avec 3 milliards de dollars. Comme quoi, ça donne pas grand-chose d'en avoir autant.
Mais non.
Et 2023, Suzanne Somers, actrice, productrice, scénariste américaine qui a commencé dans American Graffiti, qui est un film de George Lucas, un de ses premiers. Dans les séries Starsky et Hutch, La Croisière s'amuse, L'Homme de 6 millions et Vivre à 3, saisons 1 à 5.
Ah, OK.
Après ça, elle voulait plus d'argent, puis ils ont dit non.
On va leur le changer, tout simplement. OK. Excellent. Écoute, au niveau des chansons, je ne sais pas si Chris de Burr serait bon ce matin.
Ben, effectivement.
Oui, oui. Ouais, qui avait eu quand même beaucoup de succès dans les années 90. On y va-tu en français ou en anglais?
Comme tu veux. Lady in Red, c'est smooth.
Ouais, c'est smooth ce matin. Donc, je pense qu'on va y aller. T'es, le cœur d'une femme. Hey, j'y pense. Le cœur d'une femme, quand je pense à toi, c'est lequel qui est meilleur. Les deux sont bonnes.
Les deux sont bonnes.
On va y aller avec Quand je pense à toi ce matin. Chris de Burr, le chanteur de Ces Dames, qui en avait charmé plusieurs dans les années 90, avait fait quelques chansons en français au début des années 2000. Et en voici une. J'ai déjà reçu des commentaires par texto, au niveau de la neige, on dit sur les monts Valais, rien de blanc, mini flocon hier, très peu, okay. Pas plus que ça, mais quelqu'un qui a écrit également sur ma page Facebook, là, le parc, là, si vous n'avez pas de tenue d'hiver aujourd'hui, oubliez ça.
Ouais,
pour traverser. Là. Ça prend vraiment des pneus d'hiver à certains endroits. Il y a de la neige sur la chaussée, okay. Peut-être mouilleuse, mais si vous avez des pneus d'été, peut-être un peu usés.
Ben, la slush, c'est quasiment pire que la neige.
C'est, ben, exactement. Là. C'est glissant, vous pognez une lisière, puis ça va vous traîner. C'est un peu difficile. Et également, un autre commentaire, on a parlé des fermes laitières. Et donc, il dit, pour avoir été élevé sur une ferme laitière qui appartient à mon père, je peux vous dire qu'il disait souvent, une vache laitière n'a pas de champêtre pour décider le nombre de litres qu'elle doit donner. Le gouvernement aide zéro nos agriculteurs du Québec. Oui, il devrait jeter le surplus, ou il devait jeter le surplus de lait, puisque le quota est très dispendieux à acheter,
oui.
Et qu'après le vélage, c'est ça, le vélage, ouais, vraiment? La vache, parce que tout ce qui est accent dans la manière que ça a été texté,
c'est
des points d'interrogation. Donc, le vélage, la vache ne produit plus. Donc, alors, l'agriculteur doit prévoir le nombre de litres produits en avance. Pas facile, effectivement. Merci beaucoup.
Elle produit plus.
Message. Oui, produit plus, c'est ça.
Mais elle produit plus parce qu'elle vient d'avoir un bébé, donc elle produit plus de lait.
Donc, tu ne peux pas prévoir là, après ça de même comment elle va en produire et tout. Il faut prévoir d'avance.
C'est selon les saisons, puis une vache ne produit pas tant de litres, tiens, c'est fini. C'est aléatoire, c'est pas égal.
Message très intéressant. Merci. Merci à notre auditeur, auditrice de nous avoir écrit ça.
J'aime le commentaire qu'elle a dit que j'ai oublié. Si t'en as plus, c'est très cher.
C'est
donc
ça.
Donc, ils le jettent.
Ils n'ont pas le choix. Parce que, justement, le gouvernement n'aide pas, puis il ne change pas la méthode et tout. Alors, c'est pas évident pour les agriculteurs. Merci beaucoup de ces messages. Vous pouvez toujours nous écrire, réagir à nos commentaires. D'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a appelé durant la chanson, un petit message que je n'avais pas mentionné. Durant les sports, il y a un ancien joueur des Saguenay-Chicoutimi, oui, qui a été retrouvé assassiné.
Par son conjoint de ce, oui, qu'on en sait, là, parce qu'il s'est rendu à la police.
Le joueur, l'ancien joueur européen finlandais, Jani Puaka, qui a joué deux saisons avec les Saguenayens entre 2013 et 2015, a été retrouvé sans vie dans son domicile en Finlande. Il avait 29 ans. Il avait, après sa carrière en 2018, il avait pris sa retraite en 2019, il avait ouvertement avoué son homosexualité. Il est devenu le premier joueur finlandais à avouer son homosexualité. Il était en couple depuis déjà une dizaine d'années, donc depuis la fin de son junior, avec un Norvégien vétérinaire. Il avait 66 ans. Donc,
Il
n'a pas dû connaître au Saguenay.
Ça de même.
Puaka avait 29 ans, il décédait à 29 ans. Le principal suspect, donc Norvégien de 66 ans, s'est rendu à la police. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'arrestation, tout ça. Mais en fait, c'est lui qui s'est rendu. Et on dit que la scène de crime était assez brutale. Donc, Yanné Puaka, qui a joué deux saisons avec les Saguenay-Chicoutimi, a été retrouvé sans vie en fin de semaine. Il était retourné en Finlande. Il avait 29 ans. On rappelle donc que Catherine Morissette sera avec nous ce matin aux alentours de 7h30 pour nous parler d'un peu politique, de revenir sur tous les événements qui ont brassé la semaine dernière. On s'entend-tu que ça a brassé pas pire, hein, la semaine passée? Donc, il y a des journées un peu plus tranquilles. La semaine passée, ça l'était pas tranquille.
Non, c'était pas tranquille. L'année.
Mais tellement pas tranquille. Puis on était contents que la fin de semaine arrive.
Oui.
Je pense qu'on n'était pas les seuls. Je pense qu'au niveau de certains élus, puis même du côté de la mairesse,
ça même les journalistes, contente. Parce que ça a été bien tranquille du côté des nouvelles en fin de semaine. Je vérifie,
ouais,
un peu, puis c'était bien tranquille.
Oui, ça a été tranquille parce que tu te promènes d'un page, puis quand c'est rendu qu'on fait des chroniques et de parler, pour dire, faut-il interdire la chasse? Interdit la chasse, voilà, tu vas voir. Hey, il y a même trop de ça permet un contrôle du...
Ben oui.
Du
on régule les populations animales.
Des populations,
en faisant de la chasse
c'est
comme ça.
Exactement, exactement. Puis on a grandi, on a survécu à une certaine époque grâce à la chasse et la pêche.
Mm-hmm.
Tu sais, les premiers arrivants comme ça fonctionnaient avec la chasse, entre autres.
Mais
et
si
la pêche.
Si on ne fait pas de chasse, vous êtes les premiers à chialer. Il y a un orignal dans ma cour. Il y a un orignal dans la rue. Il y a un orignal par-ci. Je le sais, j'ai vécu en Alberta.
Ils vont continuer de se reproduire, eux autres, là.
En Alberta, à Banff, c'est un parc national. Donc, les animaux,
ouais,
sont protégés. Des wapitis, là, il y en a partout, là, dans la rue.
Ben, on commence déjà à avoir un problème. Tu te souviens du côté de Longueuil, le parc où c'était bourré de chevreuils.
Puis un wapiti, c'est gros, là. C'est à peu près la même grosseur qu'un orignal.
Oui.
Puis ça m'est déjà arrivé d'être obligé de dire à mon boss, on ne peut pas rentrer. un orignal sur le patio. C'est la seule sortie. Il est dans la sortie. Pas un orignal, un wapiti. Puis écoute, c'est dangereux.
À grosseur que t'as, il risque probablement de foncer, tu sais.
Peu importe la grosseur que t'as, je peux te dire, t'as une voiture, c'est gros.
Oh oui, c'est gros.
Oh. Un matin, je m'étais fait réveiller par un wapiti qui me lichait. Il y en a partout. Parce que c'est protégé.
Donc, oui, c'est
pas
protégé.
Tu peux même pas crier après pour qu'il se tasse.
Ah ouais?
Non, 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 c'est illégal. Faut que tu le laisses faire. T'attends. T'es en voiture,
il est roi
là,
chez eux.
T'attends. Okay. T'es chez eux. Mais imaginez si on avait ça ici, là. Ce serait ça, là. Parce que si
ben, premièrement, les gens auraient zéro patience. Et mm-hmm. Je me demande comment ils feraient pour garder leur patience envers les animaux. Mais Colin. Alors, si c'était comme ça ici, parce qu'on voit la population changer de plus en plus, il y a davantage de chevreuils.
Oui.
On en parlait avec nos experts de chasse qui mentionnaient que le chevreuil est de plus en plus présent dans la région. Il remonte le Québec tranquillement, pas vite. Puis, autre point également, on va en profiter, Eric n'est pas là, la dinde noire, la dinde sauvage. Mm-hmm. J'ai vu certains endroits, là, ben on en parlait dans le milieu du Québec, mais tranquillement, pas vite, là, la dinde noire remonte le Québec également. Puis, on risque probablement d'en voir ici dans les prochaines années, donc de permettre également la chasse à la dinde sauvage dans la région. Ça pourrait être une possibilité, t'sais, mettons, je dis grosso modo, dans un laps de temps de 10 ans, ce serait très, très possible que la chasse à la dinde sauvage soit disponible ici dans la région.
Et un autre qui commence à s'en venir aussi tranquillement, pas vite, on essaie de l'empêcher de monter puis de le tuer à la mesure, là. Mais le sanglier.
Sanglier, oui, c'est vrai.
C'est un animal d'un très dangereux puis qui est envahissant.
OK.
Et des effets néfastes sur la faune et l'environnement. Donc,
ouais.
Du côté de l'Amérique du Nord, on essaie de le plus possible de limiter sa propagation.
Ouais, ça peut être assez sauvage,
mais
ça.
Beaucoup n'ont élevé en captivité, puis en ont échappé. Donc, ils se sont reproduits dans la nature parce que ça se reproduit beaucoup.
Oui.
Et c'est très fort et très...
Ah, c'est puissant. Oh,
ils
n'ont
pas beaucoup d'ennemis. Ils ne se font pas manger, mettons. Ça fait qu'ils vivent vieux, fait qu'ils font beaucoup de bébés. Alors, faut les éliminer avant qu'ils remontent parce qu'eux autres aussi pourraient devenir une espèce envahissante et dangereuse, comme la dinde.
Alors là, pourquoi que la chasse est nécessaire, ça permet un contrôle de tout ça.
Évidemment, il faut la réglementer pour pas faire comme les gens au Far West aux États-Unis et éliminer presque tous les bisons jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'il n'y en a plus.
Les Simpsons avaient fait un épisode de ça très bien où Homer tuait tous les bisons pour les manger, puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'il n'y en avait plus. Puis là, ben, ils ont commencé à avoir faim. Ben, c'est ça, on les avait tous tués. Mm-hmm. À une certaine époque, ça a été comme ça. Tu disais le Far West, exactement. Tu as mentionné, je pense que c'est la semaine dernière, pas plus loin que la semaine dernière, tu mentionnais combien il y avait de bisons. C'était 60
60 000 maintenant.
60 millions.
60 millions, ouais.
Puis il en restait quelques milliers.
Ouais, quelques milliers. Puis là, je pense qu'on est revenu à 60 000. Là. Tu sais, là, on peut dire que ça va bien.
Ça remonte. Mais on les a pratiquement anéantis. Puis on s'entend du bison, là. Il y avait eu un producteur de bisons, il me semble.
Ben, j'ai déjà vu un bison dans une ferme où il y avait un seul bison. C'est gros.
C'est gros, mais ça... Oui, c'est parce que...